France Musique.
Le journal qui vous est présenté par Olivier Denré. Bonjour Olivier.
Bonjour Gabriel, bonjour à toutes et à tous. Après le feu vert de la Cour constitutionnelle, le colonel Assimi Goïta va officiellement devenir ce matin le président du Mali. La cérémonie d'investiture aura lieu dans l'enceinte du Centre international de conférences de Bamako. À l'origine de deux coups d'État en moins d'un an, Assimi Goïta va devoir pour le moins rassurer les partenaires de son pays, très inquiets de voir les militaires s'accrocher à ce point au pouvoir. Nathanaël Charbonnier est notre envoyé spécial dans la capitale malienne.
S'il y a bien un discours dont toutes les phrases seront décortiquées, analysées, décryptées, c'est bien celui que va prononcer Assimi Goïta, le nouvel homme fort du Mali. Il faut dire que depuis son second putsch, la confiance est rompue avec une bonne partie de la communauté internationale, avec ses homologues africains et surtout avec la France, qui n'accepte pas la manière avec laquelle il a pris le pouvoir et qui doute de ses intentions sur la façon dont il pourrait ou pas le rendre. Pour l'heure, la France a suspendu sa coopération avec l'armée malienne, mais il ne pourrait s'agir que d'un début si Assimi Goïta ne répond pas aux interrogations de tous, à savoir s'il ne donne pas des gages sur sa volonté d'organiser des élections, sur son envie ou non de négocier avec certains terroristes, sur sa réelle intention d'associer la société civile dans la gestion du Mali. Et pour bien montrer la méfiance de la France et des Occidentaux, ce ne sont pas les ambassadeurs qui assisteront à la cérémonie, mais les collaborateurs des ambassadeurs. Et en langage diplomatique, c'est tout sauf un compliment.
Le ministre français des Affaires étrangères doit se rendre cette semaine au Burkina Faso. Jean-Yves Le Drian exprimera une nouvelle fois la solidarité de la France après le terrible massacre commis samedi dans le nord-est du pays, près de la frontière avec le Mali et le Niger. 160 personnes, dont une vingtaine d'enfants au moins, ont été tuées par des djihadistes. Après l'arrestation musclée par la police israélienne d'une journaliste d'Al Jazeera et de son caméraman, ce sont deux militants palestiniens du quartier de Sheikh Jarrah qui ont été interpellés à Jérusalem-Est. Stars des réseaux sociaux, les deux jumeaux, une sœur et un frère, ont finalement été libérés dans la soirée. Leurs proches dénoncent une opération pour faire taire les voix des jeunes, des voix qui se sont élevées pour dénoncer les expulsions qui ont provoqué, on s'en souvient, la violente escalade entre l'État hébreu et le Hamas qui contrôle la bande de Gaza. Dans ce territoire, l'heure est désormais une fois de plus à la reconstruction, une opération très encadrée par les autorités israéliennes. Sur place, c'est un reportage de Rémi Brancato.
Ses cheveux et ses vêtements sont recouverts de poussière. Ahmed El Ejla et ses collègues sont venus récupérer des ordinateurs dans les gravats de cet immeuble totalement détruit près des universités de Gaza City.
Nous avions nos bureaux dans ce centre, nous donnons des cours dans le secteur médical. Ce sont les efforts de 9 ans de travail. Nous avons perdu plus de $88,000. Nous avons l'énergie de reconstruire, mais nous n'avons pas d'argent.
Pour l'instant, on déblaye, seulement les engins sont partout dans Gaza pour reconstruire. Le Qatar et l'Égypte promettent chacun $500 millions, plus de 400 pour les États-Unis.
J'ai des proches qui ont perdu leur maison et ils ont peur que leur maison ne soit jamais reconstruite.
Car depuis la précédente guerre de 2014, tout n'a pas été reconstruit, rappelle Amir Abou Shaba, journaliste économique palestinien.
Les conditions imposées pour la reconstruction visent à éviter la fabrication d'armes à Gaza et à faire pression pour libérer les prisonniers israéliens. Nous sommes des otages entre le Hamas et Israël.
Après la guerre de 2014, les Nations Unies et Israël ont restreint l'entrée de certains matériaux qui pourraient être détournés à des fins militaires et contrôler l'envoi des fonds. Mais pour Omar Chaban, économiste, il faut lever le blocus.
Gaza a subi 4 guerres ces 12 dernières années et nous devons arrêter ce cycle de construction, reconstruction, destruction. Si nous avions utilisé cet argent pour la paix, Gaza serait un paradis.
Les autorités israéliennes nous assurent laisser passer les médicaments, la nourriture, le carburant et les patients en urgence vitale. Mais 600 d'entre eux sont toujours bloqués à Gaza, selon les ONG, depuis près d'un mois.
La reconstruction de Gaza, c'est aussi l'affaire des Européens qui investissent sur place depuis longtemps, notamment dans des projets à vocation humanitaire. L'Europe, dont le fonctionnement depuis plus d'un an a fait l'impasse sur le Parlement de Strasbourg pour cause de crise sanitaire. Les députés ont en effet travaillé à distance et ne se sont finalement retrouvés qu'à Bruxelles. Cette semaine, ils reviennent pour la première fois dans la capitale alsacienne pour une session plénière hybride, à mi-chemin donc entre présentiel et distanciel. Pour l'eurodéputé belge Assita Kanko, l'année qui vient de s'écouler a toutefois fait la preuve que le Parlement pouvait fonctionner avec un siège unique et qu'il fallait donc mettre un terme à cette navette trop coûteuse entre Bruxelles et Strasbourg. Membre du parti nationaliste flamand, la NVA, Assita Kanko est interrogée par Angélique Bois.
Je comprends la frustration des Français, mais je comprends aussi l'électeur, le contribuable. D'après les derniers chiffres que j'ai vus l'année dernière, on parlait quand même d'un montant qui pouvait se situer entre 102 millions et 180 millions d'euros par an. Et il y a également un coût environnemental à ne pas sous-estimer. Donc, objectivement, il est totalement absurde que nous fassions des allers-retours aux frais des citoyens. Ça ne peut plus s'expliquer. C'est des montants énormes. Moi, je ne peux pas dire à ma mère, vous savez, je suis députée européenne, j'ai commencé moi-même comme aide-ménagère, comme secrétaire, j'ai fait des études, j'ai évolué. J'ai ma maman aujourd'hui qui est aide-ménagère et mon beau-père qui est instituteur. Ils ne peuvent pas comprendre et ça n'augmente pas la confiance que les citoyens peuvent avoir pour les institutions européennes. Il faut qu'on remette les pieds sur terre.
Allez, j'ai mieux sur l'est de la France avec un ciel plus agréable au fil des heures. Sur l'ouest et le sud, le soleil sera bien présent. Les températures iront cet après-midi de 19 à 28 degrés. Gabriel Olivier Aguillon.
C'était le journal d'Olivier Denré. À demain.
À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.